Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici c'est toujours Fanny et on part ensemble à la découverte de Kuan Yin et de son enseignement en ce jour. Alors, Kuan Yin, ou également appelée Kanon, hein, au Japon notamment, est la déesse de la compassion et elle peut être vue comme la mère Marie, en fait, mais version Est, donc la version de l'Orient. Alors je parle de déesse de la compassion, mais plus justement, il faudrait parler de Bodhisattva, c'est-à-dire un grand maître qui est celle en fait de la compassion. Que ce soit Kuan Yin ou la mère Marie de notre tradition un petit peu plus chrétienne, toutes les deux possèdent la même en fait, les mêmes vibrations d'amour. Toutes les deux au niveau de l'archétype, hein, c'est vraiment au niveau de cette compassion-là. Et chacune d'entre elles, en fait, ont été présentes dès le début des créations de ces ateliers sur les blessures de façon très, très globale. Donc il y a des interventions de certains maîtres, et notamment des sœurs de la Rose, hein, qui interviennent. Et bien du coup, on a eu Lady Portia, on a eu Jeanne d'Arc, etc. Kuan Yin, Marie-Madeleine et la Mère Marie sont toutes les trois un petit peu comme les architectes en fait de ces blessures, donc de façon très très globale. Elles sont là dans chaque blessure et elles sont là pour, oui, l'architecture globale de toute la série. Mais c'est dans cet atelier-là en particulier qu'elles souhaitent nous enseigner d'autant plus profondément en fait sur les vibrations qu'elles portent. Donc la sagesse que Kuan Yin souhaite nous offrir aujourd'hui, c'est celle du pardon. Alors le pardon, on en a entendu parler de toutes les façons, ça devient un petit peu le concept qui a toutes les sauces et dont parfois on en a un petit peu marre d'entendre parler. Mais ne fuyez pas, restez dans cet audio parce que je trouve que le point de vue de Kuan Yin est plutôt intéressant, nous fait voir les choses différemment et en fait ne bouscule pas notre rythme à pardonner. Voilà. Alors, pour commencer, elle nous invite à voir les choses forcément avec un peu plus de recul. Et on va parler beaucoup de ça parce que dans son enseignement, il y a deux type de personnes, entre guillemets, hein, deux types de personnes qui peuvent nous faire du mal. Le cas numéro 1, ça va être directement les abuseurs, c'est-à-dire ceux qui commettent effectivement des actes de violation envers nous, que ce soit des vols, que ce soit des viols, des agressions physiques ou morales, etc., etc. Ils sont les bourreaux en réalité et on en est les victimes. Donc ça, c'est ce que je vais appeler tout du long les abuseurs, ceux qui forment du coup des abus, peu importe de quel type ils soient, mais qui nous placent en fait forcément en statut de victime face à cet abuseur qui impose et qui prend de nous, peu importe ce qu'il prend. Le deuxième type de personnes qui peuvent nous faire du mal, ce sont ceux qui font des choix de vie qui vont nous blesser de façon indirecte. Donc là, enfin je dis indirect, mais il y a plus ou moins des impacts directs quand même sur notre vie. Ça peut être les personnes qui justement vont se mettre du côté des abuseurs et les soutenir. Ça peut être quelqu'un qui va se marier avec quelqu'un qu'on a du mal à accepter, donc quelqu'un de notre entourage, un ami, un parent. Et donc quelqu'un qu'on a du mal à accepter parce que ben, c'est quelqu'un d'une autre religion, c'est quelqu'un qui a une autre préférence sexuelle, ou ben, du coup, oui, c'est notre père ou notre mère qu'on préférerait voir seul ou veuf indéfiniment plutôt que de se remarier avec quelqu'un à qui on ne s'entend pas forcément. Ou ça peut être aussi une amie qui trompe son mari et va le quitter pour un autre. Hein. Voilà, il y a plein plein de schémas possibles, je ne peux pas rentrer dans tous les détails, c'est vraiment une idée générale, je pense que vous avez saisi. Ça peut être aussi du coup ben, quelqu'un qui va partir vivre à l'autre bout du monde et qui va vivre sa vie en nous laissant derrière. Que ce soit le cas numéro 1 des abuseurs ou le cas numéro 2 de ceux qui font des choix, je vais les appeler comme ça en fait, des choix de vie qui nous blessent, eh bien dans les deux cas, on va avoir du ressentiment, bien entendu hein, de différents degrés selon ce qui se passe, mais un ressentiment qui va s'additionner avec tous les événements de la vie et un ressentiment auquel nous pouvons nous accrocher même si nous savons que le fait de s'accrocher à ce ressentiment-là eh ben, nous fait du mal. On le sait très bien, mais voilà, on ressasse, on rejoue les discussions, on rejoue les événements, ou alors on se dit « mais pourquoi est-ce qu'on fait ça ?» Et rester, bien sûr, dans cette dynamique-là, ce cycle-là, ça nous fait du mal. On entretient la critique, on entretient la peine, on entretient la souffrance. En fait, il n'y a pas beaucoup d'intérêt, on le sait bien, à garder un statut de victime, même si c'est un statut inconscient. Mais il y en a un. Il y en a un qui est de taille. C'est celui de se sentir être dans ce qui est juste. Celui de se sentir être dans le juste. Que l'ego, en fait, va se sentir juste. C'est-à-dire que dans la situation d'abus ou la situation d'injustice, être dans l'archétype de celui qui reste juste va apporter un lot de grâce à l'ego. Et pour cela, il va juger l'ego. Et forcément, ça va générer encore plus de ressentiment en nous. On va comme ça alimenter le cercle vicieux. Et progressivement, on va s'accrocher à ce cercle-là parce que c'est se raccrocher en fait à notre statut d'innocent. C'est pas comme un statut de victime, même si c'est très proche, mais c'est d'être celui qui n'a pas fait le mal. Or, garder du ressentiment, non seulement bah, nous empêche de faire l'expérience de la paix à l'intérieur de soi, mais cela, ça va aussi occuper une place énorme dans notre mental, dans notre corps émotionnel. C'est une place qui est prise alors qu'elle pourrait accueillir de belles expériences. Donc, on a à commencer à comprendre tout ça, donc les différents types de personnes et le fait que le ressentiment, on s'y accroche, mais finalement, c'est pas nous, hein, c'est notre ego qui se raccroche à ça, qui va rejouer ces discussions-là, qui va rejouer l'histoire, hein, ce qu'on va appeler plus tard les histoires de l'ego, les histoires d'ego. Et la suite de cette compréhension-là, ça va être le pardon, mais beaucoup plus tard. Et on peut voir déjà que pardonner, ça ne va pas être si simple que ça pour l'ego, parce que, bah oui, il se rattache à ce besoin de justice-là, à ce besoin d'innocence, comme finalement, bah, la seule bouée de sauvetage qu'il peut y avoir à des kilomètres à la ronde, en fait, quand il a subi un abus, une injustice et qu'il est dans le statut de victime, c'est tout ce qui lui reste. Il vient de perdre son pouvoir, il vient de perdre sa puissance, il vient de perdre sa sécurité, il vient de perdre l'amour. Et tout ce qui lui reste, c'est de se dire, certes, on m'a pris tout ça, mais moi, je suis celui qui ne fait pas le mal. Ça ne veut pas forcément dire qu'il fait le bien, mais au moins, il n'a pas lancé l'attaque. En pardonnant, l'ego va alors penser que on va accepter l'offense. Et accepter que lui, l'ego, donc nous globalement, mais lui, l'ego, notre sentiment d'identité le plus profond, eh ben, n'était pas autant dans le juste qu'il le croyait. Vous voyez comme ça vient titiller. Alors que c'est pas ça du tout le pardon, hein, mais c'est comme ça qu'on l'apprend, c'est comme ça que l'ego le voit. Il pense aussi que finalement c'est abandonner la possibilité de recevoir des excuses, recevoir une réparation. Et du coup, finalement être choisi par l'abuseur. Donc il nous donne finalement l'amour qu'il nous a retiré, qu'il nous a pris, qu'il nous a ôté. Et donc là aussi, c'est bah, une reconnaissance, mais cette fois-ci à plus grande échelle, une reconnaissance sociale d'être dans le juste. Il est constamment à la recherche d'être choisi. Il est constamment à la recherche d'être enfin reconnu. Notre ego, notre enfant intérieur. aussi. Donc, non seulement entretenir les histoires d'ego, ça permet que, au niveau personnel, au niveau intérieur, on se dise « bah, je suis dans le juste », mais c'est aussi parce que, du coup, on se met dans une position d'attente que l'abuseur ou la personne qui a fait un choix de vie, bah, qui nous a heurté de façon directe ou indirecte, un jour puisse réparer. Et comme ça, y a la reconnaissance sociale du fait qu'on était innocent et qu'on avait raison, finalement. Donc, pour l'ego pardonner, ça veut dire, je n'aurai jamais cette reconnaissance-là, sociale. Déjà, je mets une croix dessus. Mais en plus, ça m'ôte cette reconnaissance personnelle intérieure sur laquelle se fondait mon identité. Parce que l'ego, en fait, c'est ça, c'est la personnalité. L'essence « je suis », l'être authentique intérieur, n'a pas besoin de persona. Il est « je suis », il est un petit peu connecté avec le tout, avec le un, avec le vide plein, avec ça nous dépasse totalement ce qu'il est. Mais il n'est pas la personnalité. Il n'est pas ce qui fait de nous notre identité. Ça, c'est l'ego. Et du coup, pardonner, c'est casser notre personnalité. Pardonner, c'est invalider toute notre identité. Et c'est pour ça que c'est si difficile de pardonner. En tout cas, soyons clairs sur une chose. Même si l'ego, il est en attente d'excuses et de réparations, nous ne recevrons jamais, au grand jamais, d'excuses ni de réparations. Même au tribunal, même si on va en justice, la personne va être punie, donc il y aura certainement une reconnaissance sociale, mais il est quand même rare, sauf si la personne, l'accusé, souhaite une réduction de peine, qui nous regarde droit dans les yeux et qui nous dise « du coup, je m'excuse et je vais tenter de réparer les choses ». Nous perdons un temps précieux à attendre ces excuses-là qui ne viendront jamais. À attendre cette réparation-là, à attendre la reconnaissance de l'innocence de l'ego, de l'innocence de notre personnalité. Très peu de personnes nous feront sentir que nous sommes dans le juste, même notre entourage, et qu'un tort a été fait. Certains sont dans la compassion, ils peuvent nous le donner, et tant mieux. Mais généralement, si on a une blessure de cœur, nous n'avons pas accès à ces gens-là, tout simplement parce que nous avons à réparer la blessure de cœur. Donc l'univers va mettre en place un système où à partir du moment où on attend des excuses, où on attend une reconnaissance, on n'aura ni l'un ni l'autre. Même de la part de personnes qui, on le sait, ont énormément de compassion pour d'autres, quand il va s'agir de nous et d'un besoin de reconnaissance, ces personnes-là qui savent le faire pour d'autres ne le feront pas pour nous. C'est dur à vivre. Mais c'est une réalité, c'est parce que la vie, elle orchestre, elle organise les choses dans notre meilleur intérêt. Et notre meilleur intérêt, c'est de ne pas recevoir d'excuses de réparation et de reconnaissance extérieure, parce que notre chemin, c'est de le trouver à l'intérieur. Et donc, on va arrêter de nous en donner à l'extérieur. Même, pour des personnes qui sont capables de nous le donner, elles vont penser à autre chose, elles vont formuler des mots qui vont être comme, pas les leurs en fait, souvent on peut leur dire « mais je ne comprends même pas pourquoi j'ai dit ça, ça ne me ressemble pas », parce que du coup, on ne va pas avoir par l'extérieur ce qu'on recherche, parce que sinon on va continuer à attendre, on va continuer à chercher dans cette direction-là, et on veut bien nous dire, nous mettre un grand sigle, symbole, non, là c'est une impasse, sens interdit, barrage, il faut prendre la déviation, on ne l'aura pas. Donc, ne perdons pas de notre temps précieux à les attendre. C'est pour ça finalement que l'ego continue à rabâcher l'histoire pour nous assurer encore et encore et encore que nous sommes dans le juste et que nous sommes innocents parce qu'on ne l'a pas à l'extérieur, du coup on se raccroche à l'ego. Et se raccrocher à l'ego et sa diffusion d'innocence, c'est se raccrocher au ressentiment. De toute façon, nos abuseurs, surtout s'il s'agit d'abus qui se répètent, vont instiller le sentiment comme ça de culpabilité et de responsabilité. Et c'est pour ça que l'ego, il est dans ce besoin d'innocence. parce que finalement, c'est une question de survie. Il ne le fait pas pour nous faire du mal, c'est simplement pour rééquilibrer la balance face à la culpabilité et à la responsabilité finalement d'avoir eu ce moment de vulnérabilité, cette impossibilité d'avoir mis des limites, cette impossibilité d'avoir pu se défendre et d'avoir du coup subi l'abus. Culpabilité parce que on va se sentir coupable de ne pas être à la hauteur de pouvoir nous protéger, de protéger notre enfant intérieur, et responsable parce que les dires de nos abuseurs, surtout si c'est des proches parents, de la famille ou des amis très proches, eh ben, vont orienter notre mental à penser que c'est de notre faute, que nous avons attiré par notre comportement, notre expression, l'abus lui-même. En fait, l'abuseur voit une faille, il s'incruste. Et non, nous ne sommes pas, par cette blessure-là, des espèces d'aimants à abuseurs. Ce n'est pas de ça dont il s'agit. La différence avec les gens qui ne se font pas abuser, c'est qu'eux aussi tombent sur le même nombre d'abuseurs, mais qu'ils arrivent en fait à se libérer d'eux, à leur dire au revoir très vite et plus facilement, et qu'ils arrivent en fait à rester sur leurs limites. Donc, d'autant plus que on va nous faire sentir coupables et responsables, l'ego va se raccrocher à ce besoin d'innocence pour équilibrer le système de soi. Et pour ça, eh ben, il faut un coupable. Donc, il faut y avoir un humain mauvais, il faut y avoir le mal en face. S'il y a le bien, s'il y a l'innocence, il faut que dans notre système, pour atteindre l'équilibre, il faut le mauvais en face. Et du coup, ça va être l'abuseur, ça va être celui qui nous a fait de la peine, même si c'est indirect, même si, on verra, il suit son chemin de conscience. Ça va être pour nous le mal tout désigné. Et notre ego va rejouer la séquence en le faisant devenir de plus en plus mauvais au fur et à mesure. Donc vraiment, par là, l'enseignement de Kuan Yin nous dit que pardonner, c'est vraiment très très difficile parce que c'est affronter son ego qui résiste avec encore plus d'histoire pour nous prouver son point, pour justifier son point de vue, pour sauvegarder l'innocence de l'âme. Et comme je le disais, c'est affronter également sa propre identité, c'est affronter sa personnalité, ses masques. Donc, vu qu'on ne peut pas aborder les choses comme ça, il faut prendre les choses sous un autre angle. On va commencer par faire comprendre à notre ego ce qu'est et ce que n'est pas le pardon. Et nous ne devons pas nous attendre à pardonner d'un coup. Allez, en 10 secondes, c'est fait. Il va falloir aussi accepter que le pardon, c'est une quête. Le pardon, c'est un chemin. Donc, on chemine vers le pardon. On fait un pas de plus et c'est super. C'est un tout petit pas de 2 cm. Oui, mais c'est un pas quand même. Comme toute approche donc, de guérison, hein, cela demande encore et toujours du temps, demande encore et toujours des efforts de notre part. Quelque part, là aussi, l'ego peut dire « c'est pas juste, c'est pas moi qui ai généré ça ». Et oui, on n'est pas coupable. Mais on est responsable de notre guérison. On est responsable de fournir les efforts. On est responsable de cheminer. Et on le fait à notre propre rythme. Peu importe qu'on arrive au bout dans cette vie ou dans 10 vies ou je ne sais pas, dans 1000, on a fait notre part, on a fait notre chemin jusqu'où là on pouvait aller. Et puis, on peut aussi décider de ne pas le faire et c'est ok si c'est notre choix et qu'on n'est pas dans l'ignorance de savoir que nous avons ce choix-là. On fait le choix d'avancer ou non. Mais en tout cas, le pardon, c'est pas « hop, j'ai un déclic, un claquement de doigts et c'est fait ». C'est un cheminement. Donc, c'est toute une approche différente, en fait, que Kuan Yin nous demande d'avoir, tout un changement de point de vue, en fait, sur le pardon. Elle nous dit que, finalement, pardonner, c'est juste faire de la place à mieux et à plus beau. Que ce ressentiment, que ces cercles vicieux d'histoires d'ego qui s'auto-nourrissent et grandissent comme ça, c'est pas agréable pour vous, et bien pardonner en fait, c'est nettoyer juste ça. C'est ça pardonner en fait. C'est pas comme on l'a interprété 10 000 fois de la façon chrétienne, etc. Où on l'interprète aussi comme une invitation à ce que l'abus continue. C'est pas ça. Pardonner, c'est nettoyer l'accrochage de l'ego au ressentiment. Donc oui, c'est arrêter de ressasser, c'est-à-dire de garder inconsciemment en soi des pensées, des émotions négatives qui finissent en plus par agir sur notre santé. Et ça marche que l'on soit ou non dans le souvenir du traumatisme exact, de l'agression ou de la négligence. Et ça, c'est très positif parce que pendant l'enfance, on ne se souvient pas forcément. Toute la partie du cerveau, j'en ai déjà parlé, qui s'occupe vraiment de la mémoire, du souvenir en tant que traitement de données, ce n'est pas du tout à jour. Il va falloir attendre les 7 ans pour avoir quelque chose de fonctionnel. Par contre, dès la naissance, la partie du cerveau qu'on appelle reptilienne ou limbique enregistre déjà les sensations et va le diffuser par le nerf vague partout dans le corps. C'est pour ça que ça marche tellement bien en fait la somathérapie, donc le passer par le corps pour exprimer les sensations enregistrées, pour traiter toutes ces blessures d'enfance. C'est pour ça qu'on en met ici dans ces ateliers de l'enfance. Des blessures, pardon. Et ici, de l'enfant intérieur. Ok. Du coup, peu importe qu'on se souvient ou pas, le pardon peut agir. Ça a causé des changements durables dans nos chemins neuronaux, dans de nombreux organes, comme l'amygdale du cerveau, on en a parlé. Et oui, il peut y avoir des flashbacks, des sensations qui reviennent comme ça. Et ça, bien entendu, qu'une véritable démarche de thérapie, de spécialiste du trauma est indispensable pour se sortir de tout ça. Parce que on peut faire ce nettoyage, on peut faire de la place sur ces transformations ancrées dans notre corps. Ce nettoyage, c'est le pardon. Et le pardon commence par augmenter notre compassion. Donc, au début, on comprend, c'est ce qu'on a commencé à faire ici, on a vu ce qu'était vraiment le pardon. On a également vu en deuxième que c'était un cheminement, que ce n'est pas un déclic comme on essaye de nous le faire croire. Et trois, le premier pas sur ce chemin, ça va être augmenter notre compassion. Mais ça, selon les différents types de personnes qui nous ont fait du mal, ça va être une autre affaire. On va déjà parler du cas du type numéro 1 qui sont les abuseurs. Alors, nous savons, bien entendu, désormais, que les abuseurs sont eux aussi des anciens enfants traumatisés. Et que cela n'excuse pas leurs gestes. Mais c'est un état de fait qui nous montre que leurs comportements sont totalement détachés de leur essence intérieure sacrée. Donc, le soi intérieur, le soi authentique, leur âme, en fait. Et nous devons être les témoins, être ceux qui reconnaissent, en fait, cette déconnexion. Et cette déconnexion-là est un désastre. Elle doit attirer notre empathie. Il ne s'agit absolument pas, quand je parle d'empathie, d'aller jusqu'à aimer l'autre et d'aller jusqu'à aimer son comportement. Mais tout simplement avoir de l'empathie du fait que ce sont des êtres qui marchent sur Terre de façon déconnectée de leur essence. C'est une catastrophe. Pardonner, ce n'est pas non plus cette croyance qui nous dit d'accepter le retour de cette personne dans notre vie et de ses comportements et de ses abus, ou le rétablissement d'une relation. Non, il y a eu abus, je peux pardonner, mais je ne fais pas revenir la personne dans ma vie. Pardonner, c'est pas revenir. Souvent, quand quelqu'un a trompé son ou sa partenaire, pardon, je bafouille, va nous demander qu'on lui pardonne, mais dans le sens, ne pas le quitter. Viens chérie, on fait comme si de rien ne s'était passé, on va vivre notre vie. C'est un abus de langage. C'est pas ça, pardonner. Mais Voilà, c'est une croyance aussi de ce que c'est ce concept, et on est là pour remettre les choses à leur place. Pardonner, c'est pas non plus, on l'a vu, estampiller l'acte subi comme ok, juste, ou valider un comportement criminel ou toxique. C'est pas ça, accepter, c'est pas ça, pardonner. C'est pas non plus tout oublier. C'est rien de tout ça. Pardonner, c'est ne plus ressasser la douleur qui a été infligée à la personnalité, à l'ego, à l'enfant intérieur, et de ne plus revivre en continu les émotions soulevées par leurs actes. Donc, impuissance, honte, colère. Je le redis, je le redirai plusieurs fois parce que, en fait, les croyances, elles commencent à changer quand on répète des choses, hein, quand on crée à l'intérieur un nouveau chemin neuronal. Donc ce nouveau chemin, je suis en train de le créer pour vous en répétant ce que je dis à droite et à gauche. C'est pas dans le but de combler un espace auditif, c'est tout simplement pour que cette nouvelle croyance, cette déprogrammation, ce nouveau chemin neuronal, eh bien, s'affirme. Après, ce sera, une fois que l'audio est terminé, c'est à vous de le faire. Mais là, on commence déjà à, tout doucement, faire cette étape-là. Donc, pardonner, on pourrait le résumer en disant que finalement, c'est l'acte de se libérer de l'empreinte mentale et émotionnelle laissée par un abus. Se libérer, nettoyer. Voilà. Pas dire oui, pas dire ok. Pas dire, finalement, il n'a pas un statut d'abuseur et moi de victime. Non, c'est pas tout ça. C'est se libérer de ce raccrochage que l'ego il a pour tenter de trouver un équilibre de justice intérieure. Et du coup, c'était un acte de survie parce qu'on ne savait pas faire autrement. Mais pardonner, c'est vraiment un acte ultime d'amour, mais de soi. Et ça, c'est la grande différence avec les traditions un petit peu plus chrétiennes où pardonner, c'est un acte d'amour de l'autre. Je t'aime, je te pardonne. Non, pardonner, c'est nettoyer mon espace intérieur. C'est parce que je m'aime moi et que j'aime mon espace intérieur. Parlons maintenant du cas du type numéro 2, c'est-à-dire ceux qui vont, par leur choix, impacter notre vie de façon plus ou moins négative. Pour cette seconde catégorie de personnes qui peuvent du coup nous faire souffrir indirectement, nous devons nous rappeler simplement que eux, c'est l'inverse. Ils sont connectés à leur guidance, ils sont connectés à leur essence. Et nous avons alors à accepter leur cheminement, leur route, leur voyage, leurs expériences qu'ils ont envie de vivre. On doit voir que nous ne sommes pas responsables d'eux, de leur choix, comme eux ne sont pas responsables de nous, de nos choix et de notre joie. Chacun suit la guidance de son cœur et c'est ça qui est génial et extraordinaire. Donc, pour trouver ce premier cheminement vers le pardon, ce premier pas vers plus d'empathie et de compassion, Kuan Yin nous dit, commençons déjà par voir dans quel cas est-ce qu'on se trouve ? Est-ce que c'est le cas numéro 1, abuseur, ou le cas numéro 2, choix de cœur ? Lequel des deux nous affecte ? Parce que soit on va être témoin d'une déconnexion, soit on va être témoin d'une connexion à l'essence soi. Et on va orienter notre compassion selon le cas. Et à chaque fois, plus notre compassion va augmenter, va prendre de la place, plus notre ressentiment baisse. Ils ne peuvent pas grandir ensemble. C'est l'un ou l'autre. Et si le ressentiment baisse, le cercle vicieux se calme, les histoires d'ego se baissent, et du coup, la paix intérieure devient de plus en plus disponible. La détente intérieure s'installe. C'est comme une détente musculaire, mais dedans. Comme une expérience d'expansion et de liberté. Et ça, peu importe ce dont nous sommes capables aujourd'hui, peut-être un tout petit peu de compassion, 0,01%. Et c'est ok, parce que nous faisons toujours de notre mieux. L'amour de soi demande aussi d'accepter ce dont on est capable au jour le jour, ainsi que notre absence de la perfection, notre absence du déclic du 100%. Non, on est humain, on fait du 0,01% par jour, par mois, par an. Et peu à peu, ces 0,01% s'additionnent. Mais à condition que le pardon, eh bien, soit un acte qui soit incorporé, en fait, dans notre vie comme une hygiène de vie. Chaque jour, nous aurons à pardonner, d'ailleurs, un geste un peu trop irrespectueux envers nous. Ou à nous faire pardonner, nous, pour un comportement injuste aussi de notre côté, de réactivité, parce qu'on n'a pas justement guéri tout à fait nos blessures. Et chaque jour, on augmente notre compassion sur ce chemin-là. Cela commence toujours par faire un choix. Et ce choix, je propose de le faire aujourd'hui. Et ce choix, c'est celui de percevoir différemment cet autre qui nous a fait du mal parce que ben, lui-même est en souffrance. Donc, avant de passer à la suite, dans les pages suivantes, dans les jours suivants, n'oubliez pas d'aller voir pour chaque personne de la liste que vous avez faite à quel type elles appartiennent. Est-ce que c'est un type 1, abuseur, un type 2, qui vivent leur connexion, leur chemin de vie et qu'on n'approuve pas parce que bah, cela nous impacte, même si c'est négatif ou positif. Bon, négatif, hein, forcément. En tout cas, l'attachement issu d'une blessure du cœur pendant l'enfance va créer la rigidité. Hein, c'est une perte de grâce, hein, comme on a vu. Quand on coupe les adhérences du corps, pour ceux qui ont eu l'expérience d'adhérence cicatricielle, hein, vraiment formée par le corps qui est capable de faire pousser ces liens, on constate qu'elles finissent toujours par repousser. C'est pas parce qu'on les coupe que c'est fini. Elles continuent. Ce n'est donc pas non plus une bonne stratégie là que couper les liens. Même si ça nous libère un temps et dont on a besoin pour respirer, le temps de nous mettre en sécurité parce que ces liens-là nous amène de l'insécurité. C'est la même chose avec une séparation brutale que l'on peut avoir avec un abuseur ou un type 2, ou des liens toxiques familiaux. Nous séparer dans le physique, en fait, oui, c'est positif parce que ça nous amène de la sécurité, mais il ne faut pas voir ça comme l'étape finale. C'est bon, j'ai fini. En fait, se séparer ne résout pas notre problématique d'attachement. Nous avons besoin d'aller plus loin, et aller plus loin, c'est pardonner. Alors, attention, quand je parle de ça, bien entendu que je ne parle pas du fait de continuer à se taire et de continuer à subir, ça n'a rien à voir. Si nos limites ne sont pas respectées, et encore, bien entendu qu'on n'a pas le choix que d'établir une séparation physique. C'est pas vraiment là où je veux en venir du tout. Ici, il s'agit d'une séparation de type, comment dire, énergétique, par pas d'autre choix de terme qui soit meilleur. C'est une séparation donc, qui a lieu quand nous n'arrivons pas à pardonner, c'est-à-dire que finalement, voilà, plus justement on pourrait dire qu'on bannit cette personne de notre cœur. Voilà, la séparation, l'attachement, en fait, tel que je le vois, c'est pas parler d'un attachement physique, mais c'est une séparation de bannir la personne de notre cœur. Et un temps, on en a besoin, parce que pour survivre, l'ego a besoin de trouver le mal, il a besoin de rééquilibrer ce qui vient de se passer, parce que c'est trop pour l'âme, c'est trop pour lui, et il a besoin de trouver, du coup, le mal, mais ce n'est qu'un temps. On a besoin de couper les rapports avec ces personnes-là dans le physique. Mais si on ajoute à ça un bannissement du cœur éternel, on reste coincé dans un attachement avec ces personnes-là. Dans un attachement, en fait, qu'ils ont le mauvais rôle. Se détacher, c'est qu'il n'est plus de rôle du tout. Qu'ils quittent le triangle, le fameux triangle de Cartman avec... du coup, l'abuseur, l'abuseur bourreau, la victime et le sauveur. Quand on fait une séparation physique pour se secourir, pour venir avec à notre secours, pour nous apporter la sécurité, ce qui est vraiment positif, c'est un acte d'amour de soi. Nous bannissons aussi la personne-là de notre cœur et il reste dans son rôle d'abuseur bourreau de ce triangle-là. Et nous, du coup, dans le statut de victime. La seule et unique méthode pour un détachement de ces positions, de ces rôles, c'est le pardon. J'espère que je suis bien claire là-dessus. Même, du coup, si il y a une séparation physique qui est indispensable, nous pouvons continuer à aimer ces gens-là de loin, plutôt que d'en rester dans un ressentiment qui nous consume. Voyez où je veux en venir ? Oui à la séparation, si on a besoin pour notre sécurité physique. On ne va pas continuer à subir, hein, c'est hors de question. Mais voilà, si on a mis nos limites, qu'elles n'ont pas été respectées une fois, deux fois, trois fois, stop, on n'a pas à rester comme ça. Mais séparation physique ne veut pas dire séparation énergétique. Ça ne veut pas dire je ferme mon cœur à cette personne-là. Ça veut dire on n'est pas capable d'avoir une relation, peu importe quelle qu'elle soit, amoureuse, amicale, etc., dans le monde physique, c'est ok. Mais si je ferme mon cœur, en fait, je nourris ma blessure de cœur. Ce qu'on veut ici, c'est être capable de garder le cœur ouvert. Bannir quelqu'un de son cœur, ça veut dire fermer son cœur pour cette personne, et si je ferme mon cœur, je ferme mon cœur. Donc, oui, bien entendu qu'on a du ressentiment avec ce qui s'est passé avec nos abuseurs, c'est cas 1, c'est cas numéro 2. Et bien entendu, nous cheminons vers le fait que nous pouvons rester en relation de cœur. Nous pouvons rester le cœur ouvert. Commencer par éprouver du ressentiment pour quelqu'un et mettre bien de la distance physique et énergétique, c'est une étape importante de prise de conscience de la blessure. On ne va pas dire que c'est une mauvaise étape, c'est pas du tout ça. On passe par cette étape. Mais ce n'est pas la finalité. Oui, on prend conscience du manque du respect et c'est très important que le mental le voie. Mais ce n'est pas la guérison. La séparation de cœur, c'est une expression de la blessure du cœur qui va amener encore plus de séparation avec les humains et donc encore plus d'isolement. Et c'est pas ça qu'on cherche, ce n'est pas ça la guérison. Même si c'est utile, même si c'est une question de survie au début. Parce que l'isolement, ça ne fait que traduire la peur d'avoir mal encore une fois. Être guéri, ça se voit lorsque nous osons prendre le risque de revivre la souffrance par l'ouverture de notre cœur que l'on garde ouvert. Ainsi, passer du ressentiment à l'acceptation, on va devoir passer par nourrir de plus en plus notre compassion. Encore et encore et encore. Et c'est tout ce que souhaitait nous transmettre Kuan Yin pour le moment. C'est déjà un bel enseignement, assez profond, riche, et qui renverse beaucoup de nos croyances. J'espère que vous recevrez tout ça avec... Alors je reviens un petit peu sur terre, parce que j'étais tellement dans mes explications, tellement proche de l'enseignement, à vouloir bien faire comprendre le message. Là, je clôture l'audio, donc j'essaye de revenir un petit peu les pieds sur terre. Et j'essaye au maximum d'effacer le filtre que je suis pour passer le message. Bien entendu, il reste forcément des impuretés, je m'en excuse. Mais je comprends que c'est un message qui peut être très difficile à entendre. Laissez passer quelques jours si besoin et puis réécouter cet audio pour voir que vraiment tout ce qu'on pense être sur le pardon, sur l'acceptation, sur le fait de se séparer des gens comme une finalité, comme une clôture, c'est pas ça. C'est une étape. Mais c'est pas finir, c'est pas... On n'a pas fini. En fait, quand on aura terminé, c'est qu'on est capable de revoir cette personne avec le cœur tout à fait ouvert, tout vulnérable et tout, et d'oser regarder en face, pas forcément d'établir un nouveau lien, mais de pouvoir rester au niveau de cette personne-là sans avoir ce besoin de contracter notre cœur. Et ça, ça passe aussi par un sentiment de sécurité intérieure, parce que bien entendu que... Enfin, moi, j'ai l'occasion de rencontrer mes abuseurs presque quotidiennement, notamment sur la route, hein, puisque j'habite de façon... je suis très voisine. Et du coup, je les rencontre parfois tous les jours. Et parfois, ça se passe bien. Alors, on ne s'arrête pas, on ne discute pas, mais on se croise simplement sur la route. Et eh bien, les signaux d'alerte s'allument. Et ce n'est pas mon cerveau raisonné qui dit quelque chose, parce que bien entendu, que je sais qu'on va juste se croiser, qu'il ne va rien se passer et que je ne vais pas mourir. Mais c'est mon amygdale qui fait surgir de la peur avec une montée d'adrénaline et qui me met dans un état de stress comme si je rencontrais un raptor ou un T-Rex devant moi. Je ne suis pas menacée, mais mon cerveau reconnaît la personne. Cette part de moi, l'amygdale, reconnaît la personne et met tout de suite en place des alertes qui disent attention, abuseur, attention, menace. Donc, je suis particulièrement bien placée pour sentir que le message aujourd'hui de Kuan Yin est parfois difficile de se dire que j'ai peut-être coupé totalement les ponts avec ces personnes-là, bien que voilà, j'habite malheureusement encore de façon très très proche. Mais il y a encore du travail à faire. Il y a encore un pardon qui n'est pas complet. Il y a une sécurité qui n'est pas encore totalement reconstruite, une fondation qui n'est pas totalement acquise, parce qu'il y a encore ce système d'alerte qui se met en place. Mais en tout cas, il y a un cheminement qui commence, qui a commencé. Je ne saurais pas dire où exactement où j'en suis dans ce chemin-là, mais voilà, à chaque fois, j'essaye d'imaginer l'enfance de cette personne-là, ce qui a fait qu'elle en est arrivée là, de presque me tuer, et de voir que je peux développer de la compassion là pour qu'un jour, je sois capable de croiser sur le chemin sans système d'alerte et en gardant un cœur ouvert. Et là, je saurai que je suis guérie. En attendant, eh bien, je fais mon petit cheminement. J'essaie de comprendre tous ces enseignements-là de Kuan Yin, de me dire que, justement, aujourd'hui, je m'offre la chance de cheminer ici, de prendre le temps de ce chemin et d'avoir la chance d'avancer sur ce chemin, tout simplement. Et peut-être un jour, ce sera le plus grand bonheur possible de croiser cette personne-là et de garder le cœur ouvert. En attendant, c'est très compliqué, je l'honore. J'honore également votre propre histoire avec les différents abus que vous avez pu vivre et qui ont fermé votre cœur. Tous les événements traumatiques qui sont arrivés dans votre vie. Et de vous dire que ce message que vous avez re-entendu aujourd'hui dans cet audio est peut-être une menace que votre ego va vous dire « Non, non, ça c'est que des conneries, surtout n'écoute pas ». Et en fait, c'est tout naturel, c'est tout à fait normal, c'est dur à entendre. Et même moi, c'était dur à l'entendre les premières fois. Ça fait partie du chemin. Donc n'hésitez pas à revenir dans cet audio, surtout s'il y a eu des montées émotionnelles à certains moments, pour pouvoir approfondir, l'intégration de ce message. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous embrasse et je vous souhaite un bon cheminement à votre rythme, en vous respectant, parce que vous êtes déjà la perfection. Et ça, c'est le dernier mot de Kuan Yin. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour la suite.